Paris est mauvais.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 15 avril 2015. À la une ce soir.
Attaque suicide dans le nord Mali. Un véhicule piégé a explosé à l'entrée du camp de la MINUSMA à Nsongo. Bilan au moins 4 morts, dont un casque bleu nigérien.
Lutte contre Ebola, Barack Obama a reçu à la Maison Blanche les présidents de la Guinée, du Libéria et de Sierra Leone.
Ils sont venus pour demander une continuation de l'aide et pour aussi donner ces impressions de status de la maladie là-bas.
Toujours pas de nouvelles des 400 migrants disparus hier en Méditerranée.
Au nucléaire iranien, Téhéran persiste et signe. Les sanctions doivent être levées sitôt la conclusion d'un accord.
Le gouvernement cubain s'est félicité de la décision du président Barack Obama d'enlever Cuba de la liste des États parrainant le terrorisme international.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nous ouvrons sur le Mali. Une attaque suicide a fait au moins 4 morts et 16 blessés à Nsongo, près de Gao, dans le nord du pays. Les détails avec Boubacar Touré, notre correspondant à Gao.
Aujourd'hui à Nsongo, il y a un kamikaze qui s'est fait exploser juste à la rentrée d'Nsongo, à 7 km précisément dans le village de Mozonga où est basé le camp de la MINUSMA du contingent nigérien. Alors le kamikaze est revenu du côté de Gao et le bilan, le kamikaze lui-même est tué. Et il y a un soldat nigérien qui est tué aussi et deux petits-enfants qui rôdaient dans la zone aussi, eux ont été tués. Il y a eu quelques blessés. Ça s'est passé aujourd'hui même à 11h30 au camp de l'AMINUSMA d'Nsongo. Gao, Boubacar Touré pour VOA Afrique.
C'est dans ce contexte que l'Algérie, chef de file de la médiation dans la crise malienne, a invité toutes les parties prenantes aujourd'hui à Alger pour un nouveau round de négociations dont l'issue reste incertaine. Idriss Fall.
Le gouvernement malien a déjà paraphé le pré-accord ainsi que la plateforme des groupes proches de Bamako. Par contre, la coordination des mouvements de l'Azawad avait annoncé le 4 avril son intention de parapher le document, mais s'est rétracté disant qu'il y avait encore des points à clarifier. Une partie de cette coordination de trois mouvements, trois règles, veut la reconnaissance de l'Azawad comme entité géographique, la création d'une assemblée interrégionale comprenant Gao, Kidal et Tombouctou, et souhaite aussi définir la liste des combattants qui doivent intégrer l'armée malienne et leur grade. Cependant, la CMA a envoyé une délégation à Alger sans son chef de file, Bilal Ag. Achérif. Bamako a très mal pris ces conditions posées ou ajoutées par les rebelles. D'ailleurs, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation malienne à Alger, est resté ici même aux États-Unis. La médiation au complet est déjà sur place avec des représentants des pays voisins, de la MINUSMA, de l'Union européenne et des États-Unis. Ils veulent débuter dès demain jeudi des négociations âpres et difficiles.
Retour au calme aujourd'hui en Guinée, suite aux heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre dans la capitale lundi et mardi. Le bilan des affrontements de deux jours s'élevait à 3 morts et une cinquantaine de blessés. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement d'Amatang Albert Camara réagit à l'enquête exigée par Amnesty International sur les tirs des forces de l'ordre, affirmant que l'AFP, qu'une enquête est déjà ouverte au ministère de la Justice par le procureur de la République.
Rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche entre le président Barack Obama et ses homologues Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Alpha Condé de Guinée et Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone. À l'ordre du jour, l'appui des États-Unis à la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans ces pays ouest-africains. On se rappelle que Washington avait, dans le cadre de ses efforts, déployé quelque 3000 soldats et fourni plus d'un milliard de dollars. Pour faire le point, on écoute le correspondant de la Voix de l'Amérique à la Maison-Blanche, Luis Ramirez.
Le président dit que la réponse a eu beaucoup de bons résultats. Par exemple, il a dit après de tuer 10 000 personnes, la maladie maintenant est presque disparue. Maintenant, dans le Libéria, il y a zéro de cas. Sierra Leone, Guinée, il y a moins de 40. Donc, il a dit que les efforts ont eu un très, très bon résultat. Mais il a dit que maintenant, on doit être très vigilant.
Qu'ont dit les chefs d'État ouest-africains au président Obama?
Ils sont venus pour demander une continuation de l'aide et pour aussi donner ses impressions de status de la maladie là-bas. À Washington cette semaine, les États-Unis et l'Union africaine ont signé un accord pour la création des centres pour la prévention et contrôle des maladies africaines, une institution africaine avec du soutien américain. Dans cet accord, l'Amérique dit qu'il soutiendra cette CDC africaine avec les spécialistes techniques, bourse pour 10 épidémiologistes africains, aussi du soutien pour l'établissement de 5 centres régionaux pour surveiller la maladie.
En République démocratique du Congo, la récente découverte d'une fosse commune continue de faire des remous, Morgane.
L'ONU a recommandé aux autorités de procéder à l'exhumation des corps enterrés à Maluku, à 80 km de la capitale, afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Il faut montrer à la société civile et à la communauté internationale qu'il n'y a rien à cacher, estime le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme à Kinshasa.
Toujours pas de nouvelles de 400 migrants disparus en Méditerranée. Les humanitaires dénoncent l'incurie des autorités européennes face aux arrivées massives d'immigrés submergeant l'Italie et ses centres d'accueil.
Modification du code électoral au Burkina Faso. Les États-Unis sont préoccupés. Des mesures excluant des prochaines élections les candidats qui avaient soutenu la suppression, la limitation du nombre de mandats présidentiels l'année dernière.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Libye, l'aviation du gouvernement, reconnue par la communauté internationale, a bombardé hier un camp militaire contrôlé par la coalition Fajr Libya près de Tripoli. Attaque qui intervient alors que des appels se multiplient pour un cessez-le-feu afin de favoriser le dialogue sous l'égide de l'ONU.
Négociations sur le nucléaire iranien. Le président Hassan Rouhani affirme que son pays poursuit ses discussions en vue d'un accord final avec les 6 puissances internationales sur son programme nucléaire, mais que des dialogues que n'inclut pas le Congrès des États-Unis. Il s'exprimait en réaction à l'annonce par le président Barack Obama mardi qu'il s'engageait à signer un accord qui serait sujet à l'aval du Congrès américain. Monsieur Rouhani a réitéré que Téhéran ne signerait aucun accord qui n'inclut pas la levée immédiate de toutes les sanctions frappant l'Iran.
Il n'y aura pas de changement dans les sanctions imposées à la Russie tant que Moscou ne respectera pas les accords appelant au règlement pacifique du conflit en Ukraine. C'est le verdict des ministres des Affaires étrangères du G7 réunis à Lübeck en Allemagne. Le ministre allemand des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier a souligné aujourd'hui qu'il n'était pas possible pour l'instant de reconstituer le G8 avec la Russie. C'est la deuxième fois que les 7 plus grandes économies du monde se réunissent sans la participation de la Russie, exclue suite à l'annexion de la Crimée l'an dernier.
Le gouvernement cubain s'est félicité de la décision du président Barack Obama d'enlever Cuba de la liste des États parrainant le terrorisme international. La diplomate cubaine Josefina Vida a qualifié cette décision de juste, d'autant que Cuba n'aurait jamais dû figurer sur cette liste, a-t-elle dit. L'île communiste y est inscrite depuis 1982, notamment à cause de son soutien au mouvement séparatiste basque.
Un rapport de la Banque mondiale signale un ralentissement de la croissance économique au Moyen-Orient et dans le Maghreb, conséquence de la chute des prix du pétrole. Cependant, le même rapport indique que la relance s'est accentuée dans la plupart des autres régions. Les auteurs proposent, entre autres solutions, la réduction des subsides afin d'encourager l'investissement dans des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre. Ils recommandent aussi des régulations plus simples, moins de corruption et l'amélioration du secteur de l'éducation, ce qui aurait pour effet d'augmenter les emplois dans le privé.
L'Union européenne a formellement accusé Google d'avoir nui à ses concurrents en favorisant systématiquement son propre service en comparaison de prix dans les recherches sur Internet. Elle vient de lancer une enquête antitrust sur Android, le système d'exploitation pour terminaux mobiles du groupe américain. Félix Yepassi-Zembrou.
La Commission européenne, qui a reçu deux plaintes selon l'agence France-Presse, veut déterminer si certaines conditions enfreignent les règles de l'Union européenne en matière d'entente et d'abus de position dominante. Entre autres questions, Bruxelles veut savoir si Google a obligé ou incité les fabricants de téléphones intelligents et de tablettes à préinstaller exclusivement les applications ou services de Google. Le groupe américain a-t-il empêché les fabricants qui souhaitent installer des applications et des services de Google sur certains de leurs appareils Android de développer et de commercialiser des versions modifiées et potentiellement concurrentes d'Android sur d'autres appareils? Google s'est déclaré en profond désaccord avec les accusations de Bruxelles, expliquant qu'il s'emploierait à démontrer que ses produits ont favorisé la concurrence et bénéficié aux consommateurs. Le groupe américain a 10 semaines pour répondre à la Commission et peut demander une audition. La décision définitive des autorités européennes pourrait prendre des mois, voire des années, sauf si les deux parties parviennent à un règlement amiable.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Michel Joseph.
Le secteur du tourisme devrait croître en 2015 plus vite que l'économie mondiale, plus 3,7%. En dépit des turbulences l'affectant, a estimé mercredi le Conseil mondial du voyage et du tourisme. D'ici fin 2015, le secteur du voyage et du tourisme devrait contribuer à hauteur de 7 800 milliards de dollars, soit 10% du produit intérieur brut mondial, et représentera 284 millions d'emplois, soit 9,5% du total, a assuré son président David Scousell. Capital Partners, leader du fonds d'investissement panafricain, a indiqué sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ce qu'il considère comme un boom économique et dans l'accélération de la croissance. Le PDG, Vincent Le Guenou, à l'issue de sa rencontre avec les autorités ivoiriennes, a évalué les perspectives.
Nous intervenons en Côte d'Ivoire dans deux grands secteurs, les services financiers et l'énergie. Les services financiers à travers notamment une participation majoritaire dans le groupe Aura Group, qui est un groupe bancaire régional qui vient de faire son entrée en Côte d'Ivoire en 2013 avec le rachat des ex-banques régionales de solidarité qui ont été renommées Aura Group Côte d'Ivoire.
Vincent Le Guenou, au micro de nos confrères de la RTI. 57 États ont finalement été acceptés en tant que membres fondateurs de la Banque régionale de développement mise en place à l'initiative de la Chine et négocieront les statuts de cette nouvelle institution, en but aux réticences de Washington. Après un ralliement surprise du Royaume-Uni, Washington avait assisté impuissante à une déferlante de candidatures de pays occidentaux, dont l'Allemagne, la France et l'Australie.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Michel Joseph.
L'actualité sportive ce soir avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir cher Roubaix, bonsoir à tous.
Football, les quarts de finale aller de la Ligue des Champions prennent fin ce soir en Europe.
Oui, ce soir, deux chocs, Paris Saint-Germain et le Barça, deux clubs qui se sont déjà affrontés en phase de poule et la confrontation entre Porto et le Bayern. Les Allemands partent bien sûr aux grands favoris.
Et si l'on revenait sur le match d'hier soir?
Eh bien, il faut dire que c'est une défaite que l'AS Monaco a encaissé hier, défaite 1-0 sur le terrain de la Juve en Italie. Le but italien a été l'œuvre d'Arturo Vidal sur pénalty à la 57e minute. Match nul, par contre, 0-0 dans le derby madrilène entre l'Atlético et le Real.
De grands clubs européens, Bagassi, un match de gala cet été même, ici aux États-Unis.
Voilà, un rendez-vous à ne pas rater, hein, pour vous, spécialement, chez Roubaix. Manchester United, le FC Barcelone, Chelsea, le Paris Saint-Germain et le FC Porto disputeront cet été, ici même aux États-Unis, la Coupe internationale des champions. un tournoi d'avant-saison d'après les organisateurs. Le tournoi a lancé en 2013 et organisé pour la troisième fois par l'entreprise Relevant Sport aura lieu du 11 juillet au 5 août. La Fiorentina, club América première division mexicaine et trois équipes du championnat américain de la MLS, la Major League Soccer, les New York Red Bulls, le LA Galaxy, les San Jose Earthquakes doivent également participer.
En République démocratique du Congo, au Tata Raphaël, ce serait désormais à huis clos. Pourquoi?
Oui, la Ligue nationale de football congolaise a décrété un huis clos jusqu'à nouvel ordre pour les matchs de championnat au stade Tata Raphaël. Cette décision sur Urbain fait suite aux incidents qui ont témoigné ce week-end. Deux rencontres, celle opposant le Shark 11 au TP Mazembe et le DC Motema Pembe au Sanga Balende.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chers Romain Dorsil et Morgane Guériec, en votre compagnie, place maintenant au dossier du jour.
Au Sénégal, le mouvement citoyen Yanamar, plusieurs organisations de la société civile et Amnesty International ont décidé de mutualiser leurs forces afin d'exiger des autorités de la RDC la libération des militants arrêtés en mars dernier. Une pétition et des manifestations sont prévues dans plusieurs pays africains. Claire Morin-Gibour a joint Seydi Gassama, le directeur d'Amnesty International Sénégal.
Les Congolais sont toujours en détention au secret, sans avoir été inculpés formellement et présentés en juge, et sans qu'ils aient un avocat ni que leurs parents aient accès à eux. Évidemment, c'est une détention illégale, une détention au secret, contraire à la loi congolaise et contraire au droit international. Donc nous voulons mobiliser les opinions publiques en Afrique d'abord, mais aussi dans les principales capitales du monde, y compris Washington, pour exiger le 30 leur libération, pour mobiliser et informer les opinions publiques sur la pratique répressive du régime congolais qui est destinée à réduire au silence toutes les voix qui s'élèvent contre une modification de la Constitution afin de permettre au président Kabila de rester au pouvoir 20 années de plus parce que après 20 ans de pouvoir Kabila père, Kabila fils, il veut modifier aujourd'hui la Constitution pour encore s'éterniser au pouvoir. Et pour cela, il veut réduire ces jeunes au silence.
Le fait que plusieurs pays africains s'impliquent pour la libération d'activistes, c'est un phénomène nouveau en Afrique.
C'est un phénomène nouveau à la dimension même du mouvement pro-démocratie porté essentiellement par les jeunes. C'est un phénomène qui, évidemment, est créé avec beaucoup d'enthousiasme par les peuples africains, mais qui également est un phénomène extrêmement inquiétant pour les dirigeants africains. Ce qui s'est passé au Sénégal en 2012 et ce qui s'est passé au Burkina il y a quelques mois pourrait très bien se passer au Congo si ce mouvement, en l'occurrence Filimbi, n'est pas réprimé. C'est pour cela que pour nous, il est important de se mobiliser pour que ces jeunes soient libérés, pour que l'espoir d'une véritable démocratie en Afrique, qui est née au Sénégal en 2012 et qui a pris naissance au Burkina il y a quelques mois, puisse également voir le jour au Congo Brazzaville, au Burundi et dans d'autres pays où des chefs d'État ont des velléités de modification des constitutions pour pouvoir s'éterniser au pouvoir.
Est-ce que ça veut dire qu'enfin on a une jeunesse africaine consciente et soucieuse des principes démocratiques de leur pays ?
Absolument. Une nouvelle conscience au sein de la jeunesse africaine. Et une jeunesse qui ne veut plus considérer la dictature comme une fatalité, mais qui est prête à l'affronter pour qu'en Afrique, on ne soit plus un continent où on parle de coup d'État, où on parle de violence et de guerre civile, mais un continent où on puisse parler de démocratie véritable, de bonne gouvernance, de paix et de développement.
Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
On met le cap sur le Togo. La campagne pour l'élection présidentielle du 26 mars bat son plein. Quatre candidats, dont le leader de l'opposition Jean-Pierre Fabre, affronteront le président sortant Fornia Singbe lors de ce scrutin à tour unique. Comme la plupart des élections dans ce pays ont souvent été suivies de violences meurtrières, est-ce qu'il n'y a pas de risque de nouvelles violences cette année? Idriss Fall a joint Dani Aïda, analyste politique, expert en gouvernance pour Africa Label.
Oui, tout à fait. Malheureusement, depuis la première élection présidentielle après la conférence nationale en 93, a été émaillé par des violences. Et la présidentielle de 98 également, 2003 de même, et 2005, ce qui a vu l'avènement officiel de Faure Gnassingbé au pouvoir a été également jalonné de beaucoup de morts. Je me rappelle qu'un rapport des Nations Unies a parlé de plus de 500 morts. C'est devenu une tradition au Togo que les élections se conduisent avec la violence, malheureusement.
Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour ce scrutin?
Il faut le craindre encore parce que vous voyez, les conditions qui prévalent à l'organisation de ces élections ne sont pas consensuelles. Ces conditions ne satisfont pas aux attentes des différents acteurs, qu'il s'agisse des partis politiques, ceux du pouvoir de l'opposition, que des organisations civiles qui ont déploré le fait que les réformes qui ont été promises n'ont pas été opérées. Donc, actuellement, vous voyez, par exemple, en face du candidat du pouvoir, Faure Gnassingbé, il y a Fabre, Jean-Pierre Fabre, dont le credo semble être de bénéficier d'un soutien suffisant de la population pour l'emporter. Est-ce que ce sera dans les urnes ou dans les rues? On se pose la question.
Et dans le passé, un certain Gilchrist Olympio faisait la même chose.
Absolument. Hein, il était le leader historique de l'opposition. Il avait beaucoup de soutien au sein de la population. Mais le problème, c'est que les conditions, qu'il s'agit des conditions juridiques, des conditions institutionnelles d'organisation de l'élection au Togo, ont été toujours conflictuelles. Donc, vous voyez, la violence, ça n'étonne pas, a priori, parce qu'il y a d'un côté un groupe qui pense que le pouvoir y est dévolu, et de l'autre, un autre qui pense qu'il a toute la légitimité de conquérir le pouvoir. Et ce fait que par les urnes, se rassemblent totalement alambiqués, et cela se résulte malheureusement par des violences et des morts d'hommes.
Et généralement, la communauté internationale, c'est comme les médecins après la mort.
Oui, malheureusement. Dans le cadre de ce scrutin, par exemple, on a vu la CEDEAO intervenir armée. On a vu la francophonie, mais c'est pour parler de listes électorales et de fichiers qui ne seraient pas suffisamment crédibles. Il y aura des doublons, donc il fallait prendre le temps de régler. Mais l'essentiel n'a pas été réglé. L'essentiel se passe dans la tête des gens. L'essentiel se passe du fait qu'il n'y a pas de compromis entre les acteurs de la classe politique pour organiser des élections dans des conditions qui satisfassent aux désirs des uns et des autres et aux principes internationalement admis. Je suis sûr que les leaders de la CEDEAO sont conscients des risques que court le Togo en allant à ces élections dans les conditions actuelles. Et bon, je présume qu'ils ont des solutions pour intervenir quand ce sera malheureusement trop tard.
C'était l'analyste politique Dany Aïda, joint par Idriss Fall.
Le principal prédicateur d'Al-Qaïda au Yémen, qui selon les rebelles a été tué par un drone américain hier, avait été libéré de Guantanamo Bay à Cuba en 2006. Nathalie Barge.
Al-Qaïda dans la péninsule arabique a annoncé mardi que son haut responsable Ibrahim Al-Roubaïch a été tué dans un raid américain au Yémen. Ce Saoudien a rejoint le groupe après sa libération de Guantanamo Bay en 2006. Il était considéré comme le principal idéologue et ses écrits et sermons étaient de premier plan dans les publications du groupe. Les États-Unis offraient 5 millions de récompenses pour toute information pouvant aider à sa capture. Dans le même temps, mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé l'imposition d'un embargo sur les armes au chef rebelle chiite Houthi du Yémen et exigé que le groupe se retire de la capitale Sanaa et de tous les autres territoires qu'il a conquis. La résolution rédigée par la Jordanie et les pays du Golfe impose également une interdiction de voyage et un gel des avoirs aux deux chefs rebelles Abdul Malik al-Houthi et Ahmed Ali Abdullah Saleh, le fils de l'ancien président du Yémen. La Russie s'est abstenue lors du vote. Vitali Tchurkin, l'ambassadeur russe à l'ONU, a déclaré que la résolution n'appelle pas à la fin des frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles au Yémen. Plus de 120 000 personnes ont été déplacées au Yémen depuis le début des frappes aériennes le 26 mars. Mardi, l'OIM a organisé son deuxième vol charter pour évacuer de Sanaa des civils étrangers vers Khartoum, au Soudan. Les 148 passagers comprenaient des ressortissants de 13 pays, dont l'Albanie, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis, la Roumanie, la Suède, la Tunisie, Hongrie, Royaume-Uni, Bangladesh et Canada. Le premier vol a été affrété dimanche dernier. Beaucoup de passagers ont attendu pendant des jours à l'aéroport de Sanaa en raison des arrangements complexes nécessaires, des défis logistiques, sans parler des pannes de courant périodiques, rapporte l'OIM, soulignant toutefois que l'opération a été une réussite et ouvre la voie pour poursuivre l'évacuation de plus de 16 000 ressortissants de 38 pays tiers qui sont bloqués au Yémen.
Dans Washington Forum ce jeudi 16 avril, le Mali, chronique d'une rébellion déclarée. Qui sont les principaux acteurs de ce conflit? Quels enjeux? Quelles solutions? Et surtout, quel avenir pour un pays tiraillé par des luttes ancestrales? Le dialogue est engagé, mais le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad tardent à se mettre d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
Les autorités cubaines se félicitent de la décision du président Barack Obama de retirer leur pays de la liste des pays parrainant le terrorisme dans le monde. La mesure lève un obstacle majeur dans la voie de la réouverture des ambassades américaines et cubaines à La Havane et Washington. Toutefois, l'embargo américain imposé depuis un demi-siècle à l'île reste en place. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint le professeur Franz-Antoine Lecomte de Kingsborough College à New York.
C'est une décision capitale qui a une importance, disons, presque incommensurable. Pourquoi ? Parce que c'est comme s'il y avait une sorte de rupture concernant les dangereux précédents de la guerre froide. Parce qu'on se rappelle qu'on était à deux doigts d'un désastre nucléaire en 1962, la baie des cochons, etc. Donc, les rapports, ça n'allait pas vraiment entre l'Amérique et Cuba. Mais pour le moment, je crois qu'il y a un vent qui, justement, fait une course contraire. Parce que Barack Obama semble enfin vouloir retirer Cuba, si vous voulez, de la liste des pays pratiquant le terrorisme, ou bien exportant, si vous voulez, de la révolution avec une sorte de violence. Donc Cuba n'est plus, si vous voulez, dans cette catégorie. Donc voilà pourquoi, voilà ce qui explique, si vous voulez, les gestes, le changement, si vous voulez, de comportement entre le président Barack Obama et M. Castro. Alors ça a une importance capitale pour Cuba, parce que d'abord il faut penser à l'économie de l'île, il y avait des sanctions, il y avait un embargo qui durait depuis, mon Dieu, une bonne cinquantaine d'années. Donc alors là, je crois que ça va améliorer grandement non seulement les rapports qui existent entre les États-Unis et Cuba, mais ça va sans doute améliorer l'état de l'économie cubaine qui n'est pas vraiment tout à fait brillante.
Mais professeur, l'embargo, pour ce qui est de l'embargo, il reste en place puisque ce n'est que le Congrès qui pourra lever l'embargo.
Oui, mais quand même, je crois qu'il y a un dégel, si vous voulez, entre les rapports. Je crois qu'il y a une nette amélioration. C'est la première fois, d'ailleurs, que Cuba et les États-Unis, que les présidents, si vous voulez, se rencontrent, se donnent la main et puissent avoir vraiment une conversation. Je crois que petit à petit, je crois que ça viendra. Bien sûr, Cuba n'est pas, disons, un pays dangereux, si vous voulez, qui menace les États-Unis. Nous n'avons pas de missiles intercontinentaux à Cuba. On n'a pas, c'est vraiment pas l'atmosphère de la guerre froide. Donc, le Congrès probablement doit faire entendre sa voix, mais finalement, on ne considère pas Cuba comme un pays hostile, comme un pays qui menacerait les États-Unis. Cuba n'a pas d'armes, si vous voulez, de destruction massive, comme c'était le cas autrefois. Donc, ça doit pouvoir améliorer les rapports, même si ça prend du temps.
Joint à New York, le professeur Franz-Antoine Lecomte.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
À la une ce soir.
Le Mali, une attaque suicide contre un camp de la MINUSMA a fait au moins 4 morts et 16 blessés à Ansongo, près de Gao, dans le nord du Mali.
L'Algérie, chef de file de la médiation de la crise malienne, a invité toutes les parties prenantes aujourd'hui à Alger pour un nouveau round de négociations, mais l'issue est incertaine.
Et retour au calme aujourd'hui en Guinée, suite aux heurts entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre dans la capitale lundi et mardi. Bilan de ces affrontements à Conakry, 3 morts et une cinquantaine de blessés.
Sur la découverte d'une fosse commune en République démocratique du Congo, l'ONU a recommandé aux autorités de Kinshasa de procéder à l'exhumation des corps.
Modification du code électoral au Burkina Faso. Les États-Unis sont préoccupés par les mesures excluant des prochaines élections les candidats qui avaient soutenu la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels l'année dernière.
22 degrés centigrades à Dakar, beaucoup plus chaud à Bamako, 37 centigrades.
À la mise en onde ce soir, Georges Léonard Sagnot, Chérubin Dorcide et Morgane Guiriec à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.